Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, cet appel à la fraternité des évêques membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale aux autorités publiques de la région des Grands Lacs. Dans un message lancé depuis Rome en Italie, à l'issue de leur concertation sur les alternatives de la paix, ces évêques exigent que tout soit fait pour mettre fin aux souffrances des populations dans l'est de la RDC. Et puis, ces troubles hier samedi à Mbujimayi au Kasaï oriental, où plus de 100 personnes, propriétaires de parcelles concernées par les désintéressements autour de l'aéroport, étaient dans la rue. Ils protestaient contre l'enveloppe des fonds destinés à leur délocalisation pour une construction de l'entrée de la nouvelle aérogare. L'invité de ce journal est le directeur général de l'Agence congolaise de presse. Bienvenue, Bakoumania appelle le gouvernement à accompagner l'agence officielle vers sa migration numérique en la dotant des moyens nécessaires pour réussir son ambition de devenir la porte-voix numéro 1 des informations de la RDC sur le plan international. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal. Jean-Claude Siala assure la mise en onde et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Les évêques membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACAC, appellent les autorités publiques de la région des Grands Lacs à la fraternité afin que tout soit fait pour mettre fin aux souffrances des populations dans l'est de la République démocratique du Congo. Message lancé dans une déclaration finale commune sanctionnant la fin de la concertation sur les voies alternatives de la paix dans la région des Grands Lacs, tenue du 16 au 18 octobre dernier à Rome, en Italie. Denise Lukesso revient sur le condensé de ce message.
La construction de la paix n'est pas un acte isolé. C'est une œuvre commune et collective qui implique diverses couches de la société et d'autres structures de divers ordres, disent les évêques de la CEAC. Ils exhortent tous ceux qui, de près ou de loin, continuent à s'aimer la mort, la désolation et la division dans la région, à écouter l'appel de l'Église à la solidarité universelle. Ils encouragent les autorités publiques du Burundi, de la RDC et du Rwanda à jeter des passerelles de paix entre États et les peuples de la région des Grands Lacs par la mise sur pied des conditions propices au vivre ensemble dans la fraternité et la complémentarité. Ils recommandent ainsi aux peuples de ces trois pays, particulièrement aux jeunes et aux femmes, de ne pas céder à la manipulation, aux discours de haine et de division. Ils encouragent la CIRGL, l'EAC, la SADC, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres organisations régionales et internationales à considérer la situation sécuritaire actuelle comme une priorité. Il leur demande d'accompagner sagement les processus de paix en cours afin qu'ils aboutissent à la restauration d'une paix pérenne dans la région. Goma, Denise Lukesso, Radio Kapi.
En bref, au Nord Kivu, de nouveaux affrontements ont opposé les groupes armés locaux aux rebelles du M23 dans la cité de Kichanga hier samedi en début d'après-midi. C'est à plus ou moins 80 km de Goma, en territoire de Masisi. Plusieurs sources parlent d'intenses combats à l'arme lourde. Difficile pour l'instant de dire avec exactitude qui occupe cette cité. Ses habitants ont trouvé protection depuis hier matin dans la base de la MONUSCO et dans celle du contingent de l'EAC, alors que d'autres ont pris la direction de Mouesso et environ. Province du Tanganyika, retour au calme au village Wimbiport, dans les territoires de Kalemie, après plusieurs jours de troubles ayant opposé les éléments de FARDC à la population. D'après des sources, un militaire a tiré sur un jeune homme et celui-ci est décédé sur les champs. À la suite de ce drame, la population a incendié 6 maisons et une église. L'administrateur du territoire s'est rendu jeudi dernier au village Wimbiport pour calmer la population en colère. Les points avec Paul Mounanga.
Dans son adresse à la population du village Wimbiport, l'administrateur du territoire de Kalemie déplore les circonstances qui ont conduit à la mort du jeune homme. John Mutombo appelle la population au calme et l'invite à collaborer avec les éléments des FARDC qui sont présents dans cette partie du territoire de Kalemie. Des témoins rapportent que mardi dernier, un élément de la force navale a tiré à bout portant sur un jeune homme. D'après certaines sources, le militaire qui a tiré a fait savoir que la victime était un milicien Maïmaï, mais d'autres sources soulignent que les militaires étaient en état d'ébriété. Pour Asumani Salumu, habitant du village Wimbiport, les jeunes vivent avec la peur au ventre suite aux agissements de certains militaires. Ici au village Wimbiport, la jeunesse et les éléments des FARDC vivent à couteau tiré. Les militaires considèrent les jeunes comme des miliciens Maïmaï, quelqu'un qui passait tout simplement, il venait d'acheter un filet. mais il a reçu 5 balles. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Le militaire de la force navale incriminé a été arrêté puis acheminé vendredi à l'auditorat militaire de Kalemi pour qu'il réponde de ses actes. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
La milice Mobondo continue à gagner du terrain dans les territoires de Kwamout, sémant panique et désolation. C'est le conseil provincial de la jeunesse du Kwango et l'as-belle jeune visionnaire et authentique du Grand Bandundu, Javiba, qui tire la sonnette d'alarme. Ces structures l'ont fait savoir dans une déclaration hier samedi à Radio Okapi. Elles appellent le président de la République à organiser urgemment une table ronde pour mettre fin à cette situation. On écoute Faustin Kinkoufi, président de Javiba, au micro dans les Irung.
Mobondo continue à gagner des terrains dans les territoires de Kwamout, où ils opèrent depuis plus d'une année. Le mercredi dernier, ils ont pris le contrôle du village Chemanfoum, à 25 km de la cité de Kwamout. Chemanfoum est l'un des plus grands greniers agricoles qui ravitaille la cité de Kwamout, le village Machambio et plusieurs centres de cette agglomération. Les miliciens y ont chassé toute la population et ont placé des barrières sur les axes routiers sous leur contrôle. Actuellement, il n'y a pas d'entrée ni de sortie sur l'axe routier Kwamout-Machambio dans la province du Kwango et Demenkao, Impini et leurs environs jusqu'au long de la rivière Maïndombe dans la commune de Kwamout. Les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, Javiba, demande à son Excellence Monsieur le Président de la République d'activer la tenue de la table ronde pour réfléchir sur la solution à donner à ces problèmes.
Au Kasaï oriental, troublé hier samedi en Bujimaï, plus de 100 personnes, propriétaires des parcelles concernées par les désintéressements, étaient dans la rue pour protester contre l'enveloppe des fonds destinés à leur délocalisation. Ces personnes sont celles qui habitent l'espace, qui part de la nationale numéro 1, donc sur l'avenue Inga dans sa partie comprise entre l'avenue Zahir, retenue comme entrée de la nouvelle aérogare, et l'avenue Dodoma pour déboucher sur l'avenue Fatih, ex-Lusambo, qui est retenue comme la sortie de l'aéroport. Arrivé sur place, le ministre provincial de l'Intérieur, faisant intérim du gouverneur de province intérimaire, promet de faire rapport à sa hiérarchie. Des explications avec Esther Ndalafina.
Tôt le matin, ils ont brûlé des pneus à l'entrée de l'avenue Zahir et au croisement des avenues Salongo et Fatih avant d'être dispersés sans succès par les éléments de la police. Un d'eux s'exprime.
Il y a quelqu'un qui a une parcelle bien construite avec clôture. On lui donne 4 000 $. Maison, bloc de ciment, 4, 3 chambres. On donne 2 000 $, 6 chambres. Est-ce que ça se fait où? Il y a des vieilles mamans qui pleurent ici. Le troisième âge, elles vont aller où? Et puis on nous donne 2 semaines. On va aller où? Nous, on n'a pas refusé de laisser place à l'État. Nous voulons que l'État vienne contrepasser ce combien? Autant d'argent. Quelle est la valeur des choses qui sont dans la parcelle? Parcelle vide dans notre HSI. Dernier prix, c'est 10 000 $. Et puis nous avons tous les documents complets.
Le ministre provincial de l'Intérieur est arrivé sur place pour calmer les manifestants. Ananias Mouzadi Kankonde leur a convié à une réunion d'urgence au gouvernorat des provinces. Cette réunion s'est terminée sans issue heureuse. Signalons qu'un ultimatum de 15 jours a été accordé aux propriétaires des parcelles concernées par le désintéressement afin de se délocaliser dès la réception du message de transfert des fonds. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Et puis, 6 gouverneurs de la RDC ayant en commun les tourbières ont pris l'engagement hier samedi de préserver et valoriser cet écosystème. Ils ont levé cette option dans une déclaration commune faite devant les partenaires techniques et financiers à Kinshasa. Ces gouverneurs de l'Équateur, de la Tchopo, de la Tchouapa, de Maïndombe, de la Mongala et du Sud Ubangi s'accordent que les tourbières constituent une des biodiversités uniques dans la régulation du climat à travers les stockages de carbone. Ce reportage est signé Blaise Dongala Mayanda.
Dans leurs documents, le gouverneur de ces 6 provinces se sont engagés à mettre en place un cadre de concertation multisectorielle et multidimensionnelle pour assurer la gestion durable des tourbières. Ils ont pris la décision d'assurer une gestion rigoureuse en veillant à ce que ces espaces ne soient ni drainés, de peur qu'ils ne constituent une bombe en matière des émissions de gaz à effet de serre. À travers cette déclaration, ces gouverneurs visent également à améliorer le bien-être des populations locales en activant les opportunités offertes dans les cadres des économies vertes. Le gouverneur de l'Équateur est persuadé que ce projet ne pourra aboutir sans l'accompagnement des partenaires. Bobo Boloko.
Nous invitons les partenaires techniques et financiers à nous accompagner dans la matérialisation de ses engagements.
Le directeur du Fonds mondial pour la nature a salué la détermination des gouverneurs de ces provinces dans la préservation des tourbières qui, selon lui, jouent un rôle sans précédent dans la régulation du climat. Pour sa part, le représentant de la ministre de l'Environnement a rapporté que la RDC regorge de tourbières ayant la capacité de séquestration de plus de 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui fait de la RDC le pays solution dans la régulation du climat à travers la planète.
Dans la province de la Tchopo, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, s'engage à pérenniser les activités de l'incubateur pour l'emploi des jeunes dénommé Elikia. C'était vendredi dernier à l'occasion de la cérémonie de la présentation des jeunes compétiteurs et compétitrices au Salon des métiers et de la formation interprovinciale organisé à Lubumbashi le mois dernier. Un reportage de Jacques Moukonkoli.
Les jeunes de la Tchopo ont rivalisé avec leurs homologues dans 5 métiers et ont gagné 5 médailles, dont 3 en or et 2 en argent. La mécanique auto, la menuiserie et la maçonnerie sont les métiers qui ont offert ces 3 médailles à la province. Une occasion pour le président de la FEC Tchopo, Tipitambwe Lukongo, de révéler les objectifs de cette structure.
L'incubateur s'est donné comme objectif spécifique de contribuer à l'amélioration considérable de l'employabilité ou de l'auto emploi et l'entrepreneuriat des jeunes dans les milieux urbains et périurbains de la ville de Kisangani.
L'occasion faisant le larron, la représentante de l'autorité provinciale a félicité les lauréats et les exhorte à servir d'exemple aux autres jeunes. Marguerite Niki Imayonda.
Les médaillés, vous devez donner la preuve de vos expertises pour servir de modèle à l'émulation d'autres jeunes comme vous.
Par ailleurs, Enabel a été félicitée pour son partenariat avec la FEC et surtout pour son appui à l'enseignement technique dans la Tchopo. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Au sud Kivu, il s'est tenu à Bukavu, hier samedi, un colloque littéraire à l'Institut français de Bukavu. Ce colloque a réuni 24 artistes, écrivains et slameurs de la sous-région des Grands Lacs. Une initiative de bénévolentia dans le cadre de la mise en œuvre du projet Média pour les dialogues. Objectif, la consolidation de la cohésion sociale et la protection d'une cohabitation pacifique au sein des populations des pays de la région des Grands Lacs. Rachel Kessembangou y a pris part. Voici son reportage.
Une opportunité pour les auteurs de la RDC, du Rwanda et du Burundi d'expliquer leur motivation pour cette littérature engagée. Faustin Mouliri, écrivain congolais.
C'est une contribution à la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Mais cette construction va passer par l'engagement et par le travail littéraire.
Pour Moura Keye, Viviane, écrivaine rwandaise, à travers leurs textes engagés, les écrivains s'attendent d'aller au-delà des diversités.
Ça donne de l'espoir que notre littérature engagée aboutira à des faits importantes. Parce qu'à travers nos écrits, nos chansons, nos pièces de théâtre, les gens vont savoir qu'il ne faut pas qu'une différence culturelle, physique, ethnique soit une cause de mésentente, mais plutôt ça doit être une cause de complémentarité et de solidarité.
Écrire pour la paix se révèle donc être une cause noble. Mukubano Joseph, écrivain burundais.
C'est une littérature où un auteur prend position contre un mal social, un mal sociopolitique, parce que la littérature, en dehors de l'esthétique, c'est aussi une éthique.
Signalons que cette activité culturelle s'inscrit dans le cadre de la première édition du projet Les plumes s'émeusent de paix. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la Monisco Beni a lancé hier samedi une formation en arts martiaux à l'intention du personnel de la prison de Beni. Pendant 2 mois, une trentaine d'agents, dont des civils et des policiers, vont apprendre des techniques de base en arts martiaux. C'est pour leur permettre de faire face aux menaces des détenus violents ou à des tentatives d'évasion en les dotant des compétences d'autodéfense, entre autres. Olivier Tchomba, encadreur des apprenants, explique l'importance de cette formation au micro de Grévis Salomon.
Pour se protéger en cas de difficulté avec les prisonniers, si les prisonniers veulent fuir la coma et ils vont se tenir dans le cadre de self-défense, si peut-être il y a des brigands, comment ils vont se tenir, ne pas créer des ennuis aux prisonniers, mais juste pour leur défense, donc l'autodéfense. Les policiers vont utiliser les techniques de défense pour les neutraliser en les faisant les amener au sol sans ôter la vie des prisonniers. Parce que nous savons, nous tous, dans notre loi, on dit que le coup et blessure est condamnable. Donc quand nous montrons les policiers pénitentiaires et les personnels pénitentiaires, et non des mouvements violents, c'est des mouvements simples à neutraliser. viser le prisonnier qui veut provoquer des fuites. Nous prenons quelques notions de base de karaté et judo. Nous les apprenons pour leur autodéfense. En tout cas, c'est ce que nous avons montré au personnel pénitentiaire et aux policiers pénitentiaires.
Actualité internationale.
Au Kenya, 14 mois après l'arrestation du pasteur Mackenzie, soupçonné d'avoir causé la mort de plus de 400 personnes par ses appels à un jeûne extrême, le Sénat vient de publier un rapport d'enquête dans lequel il pointe les défaillances de la justice et de la police, de même que l'inaction du comité local de sécurité. Au Sénégal, plusieurs collectifs de consommateurs et organisations de la société civile ont organisé hier samedi à Dakar des sit-ins pour protester contre l'inflation et la vie chère. Loyers, électricité, denrées alimentaires, les prix explosent et des mesures d'encadrement des prix ont été prises mais ne sont pas toujours appliquées.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur général de l'Agence congolaise de presse. Bienvenue, Bakoumania appelle le gouvernement à accompagner l'agence officielle vers sa migration numérique en la dotant des moyens nécessaires pour réussir son ambition de devenir la porte-voix numéro un des informations de la RDC sur le plan international. Le directeur général, bienvenue Bakoumania, s'entretient avec Jacques-Yves Moulima.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour mon cher Yves.
Il en est déjà à la tête de l'agence congolaise de presse. Quel est l'état de santé de votre agence?
L'agence congolaise de presse se porte tant bien que mal. Nous l'avons trouvée dans un état et nous voulons la conduire dans un autre état. Nous estimons que nous sommes sur la bonne voie et c'est la voie des réformes que nous sommes en train d'implémenter ici à l'agence congolaise de presse.
Vous parlez des réformes. Est-ce qu'à ce stade, la RDC peut compter sur l'ACP comme porte-voix pour la rendre audible sur le plan diplomatique?
Oui, la RDC peut compter sur l'agence congolaise de presse pour que sa voix plurielle soit portée sur la place internationale. J'insiste sur la voix plurielle parce que par le passé, avec l'héritage du Imper Parti État, la ZAP, c'était la voix de son maître, c'était la voix du régime, c'était la voix du présent Mobutu. Mais l'ACP d'aujourd'hui, ça porte la voix de tous les Congolais dans toutes les sensibilités, la société civile, la majorité, l'opposition, les gouvernements, le Parlement. Ce qu'il faut également dire, c'est que pour porter la voix plurielle de la République et de toute la nation, il faut avoir l'accompagnement des autorités. Si les autorités n'avaient pas accepté notre manière de travailler et notre vision, on n'en serait pas là.
Vous parlez du traitement de l'information. Aujourd'hui, il y a une migration vers le numérique. Est-ce que vous avez les atouts nécessaires pour cela ou faut-il encore entendre l'apport du gouvernement?
Les atouts, on n'en a pas. Il faut être franc avec nous-mêmes. Nous voulons assurer la transition numérique de l'agence congolaise de presse, mais malheureusement, on n'a pas tous les atouts. Le personnel approprié, on a le personnel qu'il faut, mais il faut mettre ce personnel à niveau. Mais le plus grand handicap de l'agence congolaise de presse, c'est le matériel. Nous n'avons pas le matériel qu'il faut. Le parc informatique de l'agence congolaise de presse est vieux. Mais avec les moyens du bord, avec la participation et l'assistance du gouvernement, nous sommes en train de renouveler ce parc informatique. Et aussi, grâce à la coopération avec nos partenaires extérieurs, nous sommes petit à petit en train de renouveler le matériel informatique.
Justement, quand vous parlez des partenaires, dans votre actif, à la tête de l'ACP, il y a des partenariats conclus avec des agences du monde occidental et même de l'Afrique. Quelle est votre vision?
Nous sommes en retard par rapport à certains médias. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'ils sont en avance sur le numérique par rapport à nous. Donc nous sommes en retard. Et la valeur ajoutée que nous apportons aujourd'hui, c'est que nous avons une ouverture à l'extérieur. L'autre valeur ajoutée étant notre présence à travers tout le pays, c'est que les autres médias n'ont pas. Avec tous les partenariats que nous avons noués, la voix de la République démocratique du Congo est relayée par les autres agences. Nous avons maintenant des auditoires où on ne pouvait pas espérer avoir à faire parler de la République démocratique du Congo. C'est notamment en Algérie, c'est notamment au Maroc, c'est en Chine. Tous ces partenariats permettent à ce que les informations de la RDC soient portées envers le public de ces différents pays. Ça, c'est un outil diplomatique stratégique. Par exemple, une ouverture sur la Belgique, qui est la plaque tournante de la politique européenne. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est présent à travers notre bureau de Bruxelles, notre bureau de liaison, et nous espérons que bientôt, ça sera un bureau de représentation. Nous travaillons assidûment pour que nous soyons présents au Vatican. Aujourd'hui, nous apportons la voix de la RDC là où le débat se tient.
Alors, l'ACP est donc attendue, comme vous venez de dire, comme un pourvoyeur numéro un d'information en RDC. Est-ce que vous relevez ces défis ou vous avez encore des contraintes pour y parvenir?
Aujourd'hui, l'ACP n'a pas cette technologie de pointe. Et cette technologie de pointe s'appelle fil d'actualité. Et nous travaillons avec nos partenaires, avec le gouvernement, pour que nous puissions installer des fils d'actualité de l'Agence congolaise de presse. Ce qui nous permettrait de gagner du temps en termes de retard technologique que nous avions encaissé jusqu'à aujourd'hui. Lorsque nous aurons nos fils d'actualité, et nous, notre vision c'est d'en avoir beaucoup, nous voulons avoir un fil d'actualité en français, un autre fil d'actualité en langue nationale, soit un fil d'actualité également vidéo, photo, un fil d'actualité texte. Donc nous voulons quelque chose de grand à la dimension du pays. Lorsque nous aurons ces fils d'actualité, à ce moment-là, nous dirons, ok, nous y sommes, nous pouvons être la pourvoyeuse des informations pour tous les médias locaux et internationaux. Et nous en appelons rapidement à la compréhension des autorités gouvernementales pour que les moyens soient mis à disposition de l'ACP, parce qu'on ne peut pas réussir ça seulement avec les partenariats.
Monsieur le directeur général, je vous remercie.
C'est moi qui remercie Radio Okapi.
C'était notre invité, le directeur général de l'Agence congolaise de presse. Bienvenue Bakoumania, s'entretenez avec Jacques-Yves Molima. Fin de ce journal qui a été coordonné par Alain Irung et mis en onde par Jean-Claude Siala. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.